Merci beaucoup pour la louange. Mais oui, c'est sûr. C'est vraiment un privilège de pouvoir adorer avec vous ce matin. Ça faisait longtemps qu'on en rêvait. On avait hâte d'être ici. On avait hâte aussi de vous présenter nos amis, les Fruits Sols. Le Seigneur les a emmenés dans notre vie, ça fait à peu près un an et demi. Et puis, on a été vraiment, vraiment bénis à travers leurs contacts. On peut dire qu'ils nous ont rapprochés de Dieu encore davantage. Fait que c'est vraiment une amitié qui est précieuse. Et puis, on est content de les avoir avec nous aujourd'hui, puis qu'ils puissent vous emmener dans la louange aussi. C'est vraiment leur don. Il y en a d'autres aussi, mais celui-là, on voulait vraiment vous le partager ce matin. Puis, j'espère que ça vous a béni. C'est toujours un privilège d'adorer, d'aller devant le Seigneur, puis de vraiment juste s'abandonner, d'ouvrir nos cœurs, puis la louange, la musique est un outil que Dieu nous a donné pour le faire, puis c'est vers là qu'on veut aller, hein. Toujours se rapprocher de Dieu, nos cœurs, toujours plus près de lui, et puis c'est pas toujours facile, il y a des obstacles, mais le Seigneur est persévérant, le Seigneur est fidèle, et puis le Seigneur termine ce qui a commencé dans nos vies, et puis Dieu nous emporte près de lui. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce matin, beaucoup de choses à vous partager, mais je ne peux pas tout dire. J'aimerais, pour moi, je vais me présenter premièrement. Il y a beaucoup de personnes ici que je ne connais pas, que j'ai vues une fois ou deux. Ça me fait vraiment plaisir d'arriver puis de voir qu'il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. J'étais ici il y a 4 ans. On était ici, ma famille et moi, pendant 9 ans. On a eu le privilège de travailler avec vos anciens et puis de faire partie de cette équipe-là, puis de servir le Seigneur ici pendant 9 ans. Et puis le Seigneur nous a vraiment bénis à travers ces 9 années-là. On a grandi beaucoup, entouré d'hommes et de femmes de Dieu. Et puis on vous porte encore profondément dans nos cœurs. Vraiment, on parle de vous régulièrement. Et puis, oui, je confirme, effectivement. Et puis, on est vraiment bénis. Oui, Jean. Tu sais que j'ai pas de problème avec ça, Jean.
C'est juste pour rappeler, c'est ça, là. C'est des jeunes de 12 ans et plus, vous ne savez pas, vous aimeriez aller d'une classe de 4 du dimanche. Moi, je suis disponible. Mais si vous voulez rester en haut, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous dire ça.
Il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'il y en a qui aimeraient descendre? C'est pas obligé. Mais si vous voulez, moi, je suis disponible. Sinon, on peut rester.
Je pense qu'ils vont rester. Ils vont rester. Oui. Donc, fait que Jean, tu vas pouvoir rester toi aussi, c'est le fun, c'est bien. Good. Je suis content. Donc, on était ici pendant 9 ans et puis, voilà, 4 ans, le Seigneur nous a appelés dans la région de Orford. On travaille maintenant dans un camp de vacances. On reçoit des jeunes tout l'été. Et puis, 90% de ces jeunes-là sont non-croyants. Fait que c'est vraiment un camp qui est au cœur de la mission dans la région de l'Estrie. Et puis, on annonce l'Évangile à 325 familles à travers les enfants, à travers l'année. Pour les camps de jour, puis les camps de vacances, on rajoute un autre 250 familles qui sont touchées par ça. Donc, ça fait beaucoup de gens. Et puis, beaucoup de jeunes n'ont jamais entendu parler de l'Évangile avant. Et puis, ils arrivent au camp, sont exposés à la parole. Et je vous dis, quand on dit c'est Dieu qui prépare les cœurs, il y a des jeunes, là, quand ils entendent parler de Dieu, là, c'est tout de suite. Leur cœur, là, c'est un aimant. Ils sont attirés par Dieu. Ils ont le goût d'en connaître plus, puis ils sont touchés par son amour. C'est incroyable. Les tout-petits, là, de 5 à 9 ans, là, quand ils entendent parler de l'amour de Dieu, là, ils sont émerveillés. Ils sont attirés par Dieu pour la grande majorité. Et puis, ça continue aussi à l'adolescence. Ça se passe d'une façon différente avec les adolescents. Mais tu vois que les adolescents sont déstabilisés parce qu'ils se retrouvent dans un environnement où est-ce qu'ils ont le droit d'être curieux par rapport à Dieu. Partout ailleurs dans la société aujourd'hui, s'ils osent mentionner qu'ils se questionnent par rapport à Dieu, ils sont rejetés, sont ridiculisés, sont pointés du doigt. Donc, ça leur enlève le goût de tout de suite. Fait qu'il faut qu'ils le fassent tout seul en secret, puis souvent, ils abandonnent. Quand ils arrivent au camp, ils se retrouvent dans un environnement. « Hein, tu crois en Dieu? »« Ouais. » L'autre aussi. l'autre aussi, l'autre aussi. Fait que là, t'es comme, OK, ils sont déstabilisés. Et puis, ils prennent goût, puis ils s'ouvrent. La curiosité s'installe. La crainte, le mur s'en va. La relation, à travers la relation, ils s'ouvrent à l'Évangile, puis ils posent des questions. Puis ils font des pas. À chaque été, ils font des pas de plus. À chaque semaine, ils font des pas de plus vers le Seigneur. On ne sait jamais comment est-ce que Dieu va utiliser ces choses-là. Mais on sait que c'est lui qui fait grandir les graines qui ont été plantées. Et que ce n'est pas en vain tout ça. Le Seigneur utilise ces moments-là dans leur vie. On a à chaque été des gens qui reviennent au camp après 30, 40 ans, quand ils reviennent au camp juste pour visiter, puis tout ça, ils nous racontent l'impact que le camp a eu dans leur vie. Et c'est vraiment un moment d'ancrage pour chacune de ces personnes-là dans leur vie. Et puis, c'est un ministère qui est vraiment, vraiment précieux pour Dieu, pour atteindre les gens avec l'Évangile. Puis, on sait comment est-ce que c'est difficile d'atteindre les Québécois avec l'Évangile. Et présentement, les camps est un moyen que Dieu utilise qui est très, très, très efficace pour les emmener à entendre l'Évangile. Oui, Chantal? Oui, c'est 90 % de... Oui, je l'ai dit au début, mais c'est 90 % des gens viennent, ils viennent pas de foyers chrétiens. J'avais une conversation avec un enfant pendant la relâche. On avait un camp de jour, et puis on discutait, puis elle me partageait, elle avait 11 ans à peu près, elle me partageait comment est-ce qu'elle lisait la Bible tous les jours. Parce qu'on revenait du temps de l'histoire biblique, puis là, on s'en va dîner. On en profite, quand on est à la table, on pose des questions, on jase avec les jeunes. Et puis, elle me disait qu'elle, elle lisait sa Bible tous les jours, elle prenait des notes, elle avait son calepin de notes, puis qu'elle priait. Puis quand elle était toute seule à l'école ou quand ça se passait pas bien, elle priait aussi. Et puis, j'ai dit, est-ce que tes parents croient en Dieu? Elle a dit, je ne le sais pas. Elle a dit, jamais, jamais qu'on parle de Dieu dans ma famille. Jamais. Donc, elle a sa foi à elle. Elle a sa relation avec Dieu à elle, et puis elle a 11 ans, puis elle vit dans un foyer qui est non-croyant, et puis elle a pris position pour Dieu. Puis à chaque semaine, à chaque été, elle revient au camp, puis elle fait des pas de plus, jusqu'à ce qu'elle soit adulte, puis là, elle prendra en charge sa croissance spirituelle, puis son peu importe où ce que le Seigneur l'emmène. Mais des histoires comme ça, on en a plusieurs. J'aimerais vous faire jouer la vidéo. Si on réussit à le mettre en avant, il y a une section qui vous montre un peu des activités qu'on fait. Le camp, c'est aussi du plaisir. On a-tu l'image? C'est un peu ça ma crainte. Je regarde puis je pense qu'on n'a pas l'image. La musique est bonne, hein? Mais c'est l'image. Je vais brancher mon ordinateur puis je vais mettre le micro sur mon ordi. Fait que enlève-le, on va changer la source puis on va le mettre dans mon ordi. Tu peux l'arrêter. Puis, source. Merci, Brian. J'ai préparé un message, mais je ne suis pas sûr que je vais me rendre. On a tout l'après-midi. Moi aussi. Pas de problème. Vous savez que je suis capable de parler toute l'après-midi. Hein? C'est ça l'affaire. Poser. Y veux-tu? C'est quoi le fil? Moi, c'est un c'est le HDMI. Le HDMI va dans le sous-sol, hein? Vous avez un adaptateur, OK. C'est ça que tu voulais me dire, Robert, tantôt, hein? Mais... J'écoute pas tout le temps, je m'excuse, Robert.
Bon, Étienne, ce matin, il va parler du Saint-Esprit.
Je vais parler de mon message chez Romains 8, justement, puis l'Esprit est au cœur de tout ça. Oh là là, hein? Thank you.
En fait, avant de venir au camp, j'étais pas vraiment croyante, mais pour de vrai, ça m'a convaincue. Tout ce que vous faisiez, l'amour que Dieu confessait pour nous, c'était comme magique. J'adorais ça, c'est comme si j'étais heureuse pour juste vivre. Mais j'avais pas encore vraiment tout ce qu'il me fallait pour vraiment comme croire. Et en venant ici cette semaine, j'ai vraiment été comme tout ce que j'avais besoin pour être convaincue. C'est comme ça, je sais pas comment dire, mais ça m'a toute convaincue. Puis là, je veux juste être bien et être en paix avec Dieu.
Partager ce qui m'a convaincu cette semaine. En gros, on parlait beaucoup de la protection.
Le privilège. J'ai eu le privilège de baptiser James. Vous avez eu.
Je peux dire de quoi aussi?
Oui.
À un moment donné, dans mon baptême, j'explique comment est-ce que. On avait déménagé, puis c'était comme Seigneur, tu m'emmènes à quelque part, vraiment, je sais pas c'est où.
Quelques témoignages des enfants. Ça a un impact. C'était plus du camp de vacances, des camps qui durent une semaine, mais du côté du camp de jour, il y a beaucoup de choses aussi qui se passent. On est vraiment, vraiment bénis, puis de voir comment est-ce que Dieu agit dans les cœurs énormément. Peux-tu baisser mon son un peu? C'est très, très fort. Donc, on est vraiment bénis de voir comment est-ce que Dieu agit. Et puis, c'est ça, on a baptisé 4 personnes l'été passé, 4 de nos staffs. Dont James qui avait fait la demande puis la démarche. Ça a été vraiment un moment bénissant. Puis on se réjouit vraiment de tout ce que Dieu fait. Donc, on finit à 1h30, hein? Ah ouais. Il me reste 15 minutes. Oh là là. On va prendre un temps pour prier. Et puis, on va prendre le temps d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur Jésus, quelle joie, quel privilège, Père éternel, premièrement, d'être dans ta présence, mais d'être aussi, Seigneur, en ta présence avec des frères, des sœurs qu'on aime, Père éternel. C'est un privilège, Seigneur Jésus, et on veut louer ton nom. Tu es digne de louange, tu es saint, tu es assis sur ton trône, Seigneur, et tu règnes. Et on voit, Père éternel, ton règne d'amour, ton règne de justice. Seigneur, on est reconnaissant que tu as ouvert les yeux de nos cœurs, Père éternel, pour qu'on puisse le saisir, Seigneur. Et on te demande encore, Seigneur Jésus, d'ouvrir nos yeux encore plus grands, Père éternel, qu'on le saisisse encore davantage, Seigneur Jésus, qu'on soit émerveillé par ta personne, par ton amour, Seigneur Jésus, par ton œuvre, dans le précieux nom de ton Fils qu'on te prie, Seigneur. Amen. Amen. Ce que j'avais pensé vous apporter ce matin brièvement, c'est pas. Je sais que vous êtes dans la série avec Romain, hein? Non, avec le cœur, hein? Avec David. J'ai écouté quelques de vos prédications, puis ça me bénit beaucoup. Et puis Romain est un livre merveilleux. Romain chapitre 8, c'est comme un peu la crème de la crème. Et puis, Romains 8, chapitre, verset 12 à 17, on va prendre le temps de regarder certains éléments ensemble, mais avant, j'ai une question. Est-ce que vous aimez ça, les processus dans vos vies? Oui, hein? Ça, j'aime ça. Des fois. Il y en a-tu qui sont plus du style, ben moi, le plus court possible, mieux que c'est, du point A au point B, right away. Yes? C'est ça? C'est triste. C'est triste. J'en suis presque fatiguant, mais moi, j'aime les processus. J'aime ça de voir une personne du point, passer du point A au point B, parce que c'est une aventure. Puis je me plais à dire que ceux qui veulent rusher du point A au point B, c'est pas vraiment une position qui est biblique, je trouve. On pourrait en discuter, là. Mais je pense que Dieu prend beaucoup de plaisir dans les processus de la vie. Parce que chacun de ces processus-là ont un but, joue un rôle important dans nos vies, dans nos cheminements. Mais de toute façon, on va finir au ciel. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein? On finit au ciel de toute façon. Puis au ciel, bien, on le sait, on va être parfait, on va être dans un corps glorifié, et puis tout ça va être fini, on n'aura plus de péché, on n'aura plus nos luttes, tout ça va être fini. Et c'est ça pour tous ces enfants. Alors, pourquoi Dieu nous garde ici? Pourquoi? Le but, si c'est qu'on devienne saint, bien, tout se met de le faire tout de suite. Bien moins compliqué. On donne notre vie au Seigneur, pow! On est rendu au ciel. Le processus est fini. Ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais il y a une raison pourquoi que ça fonctionne pas comme ça. C'est parce que Dieu aime les processus. Et le processus de transformation dans nos vies sert un but qui est celui de la gloire de Dieu. Nos processus dans nos vies glorifient Dieu. Donc, si on rush dans nos processus, puis on dit « le plus vite possible en arrière de moi pour que je redevienne bien », qu'est-ce qu'on fait? On gâche une occasion. On gâche une occasion que Dieu nous donne de faire une œuvre dans nos vies. Et quand on rush d'un processus à l'autre dans nos vies, bien, c'est comme si à chaque fois on profite du tiers de la bénédiction, du tiers de ce que Dieu veut nous donner. Et puis quand on fait juste rajouter un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, à la fin, là, on s'est privé de tellement de bénédictions. Oui, on finit tout parfait de l'autre côté, mais on s'est privé de tellement de choses pendant notre parcours. Et j'aimerais vous inviter ce matin à ce qu'on considère de prendre notre temps dans les processus, et puis de les savourer et d'en profiter. Et je ne dis pas ça à la légère. Je sais qu'il y a des choses dans nos vies qui sont très difficiles. Je sais que dans nos vies, il arrive des tragédies, il arrive des injustices, il arrive toutes sortes d'événements qu'on ne souhaite pas à personne. Mais dans chacun de ces événements-là, vraiment malheureux, qui sont les conséquences du péché dans nos vies, il y a toujours des beautés collatérales. Il y a toujours quelque chose que Dieu va faire dans ces situations-là pour ramener la lumière, pour ramener sa paix, ramener l'espoir. Dieu est toujours présent, peu importe. Ça rend pas, faut pas minimiser ces épreuves-là, mais il faut prendre conscience, il faut s'arrêter. Puis prendre conscience que ces épreuves-là, ces moments-là dans nos vies, sont des outils dans les mains de Dieu. Puis en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on prenne le temps de s'arrêter puis de considérer ces choses-là. Parce que si on ne le fait pas, et tout ce qu'on veut, c'est que la souffrance et que tous ces éléments-là soient là en arrière de nous le plus vite possible, on passe à côté de beaucoup de choses. Et en bout de ligne, bien, nos cœurs sont passés à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse que Dieu veut nous donner, de beaucoup de paix que Dieu veut nous donner, veut construire dans nos vies, de confiance en lui, de foi, et de raison aussi pour l'adorer puis le louer. Et un cœur qui n'adore pas le Seigneur, c'est un cœur qui n'a pas vraiment vu Dieu pour qui il était, pour qui il est. Parce que Dieu est digne de louange. Et il n'y a pas un genou qui ne se... Il n'y a pas une personne qui ne tombera pas face contre terre quand il va rencontrer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est glorieux, il est digne de louange. Et nos cœurs ont besoin de voir la beauté de Dieu pour l'adorer. Donc, si nos cœurs ont de la difficulté à aller dans l'adoration, bien, ma prière pour vous ce matin, c'est que vos cœurs voient la beauté et la gloire de Dieu. Sans ça, nos cœurs ne seront pas des cœurs d'adorateurs. On voit dans Romains Romains, c'est tout qu'un livre. Romains chapitre 6, Romains chapitre 7, Romains chapitre 8, on voit toute la guerre, le combat avec le péché, tout le fait que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, on a la victoire sur le péché, on est mort avec Jésus-Christ à la croix, on a ressuscité avec lui. Et maintenant, on est en mesure de vivre une vie nouvelle parce qu'on est une nouvelle créature, une nouvelle création. Et on a l'Esprit en nous aussi. L'Esprit joue un rôle énorme dans chacune de nos vies pour nous guider, pour nous diriger. Dans Romains chapitre 7, on voit que Paul, il lutte avec quelque chose. Hein? Il fait des choses qu'il ne veut pas, ce qu'il voudrait faire. Il ne le fait pas. Il y a tout cet enjeu-là du fait que, oui, on est enfant de Dieu, on a donné notre vie au Seigneur. Quand on s'est repenti de nos péchés, on a l'Esprit, mais il y a encore du péché dans nos vies. Oui, un jour, ça va être final. Et on peut le considérer comme déjà accompli parce que qu'est-ce qui est dans la main de Dieu est dans sa main. Il n'y a pas personne qui peut nous ravir de la main de Jésus et la main de Dieu. C'est acquis. Fait qu'on peut considérer que c'est déjà fait. On est saint, on est parfait en Christ. Mais la réalité, c'est que présentement, pendant notre processus qui est notre vie, bien, on continue de lutter, on continue d'être exposé au péché, on continue de subir le péché des autres aussi, on continue de faire subir le nôtre aux autres. Et tout ça est présent dans la vie du croyant. Romains chapitre 8 arrive et il nous dit que la réponse à tout ça, c'est quoi? C'est ta relation avec l'Esprit. Il n'y a plus de condamnation maintenant pour l'enfant de Dieu, et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage de ça dans ta vie. Je sais que notre frère Brian vous a déjà fait une prédication sur l'importance de marcher par l'Esprit pour la vie d'un croyant. Un croyant qui ne marche pas par l'Esprit, il n'y aura pas de puissance dans sa vie. Il n'y aura pas de victoire. Son processus de vie va être extrêmement difficile. Il va avoir de la difficulté de faire ce processus-là qu'on appelle la sanctification, qui est de se détacher de nos péchés, qui est un résidu de notre ancienne vie, puis du fait qu'on vit encore dans ce corps, qu'on est présent encore dans ce monde. On va avoir de la difficulté de se dévêtir de ça et de revêtir l'identité d'enfant de Christ, d'enfant de Dieu, et puis de marcher d'une façon qui le glorifie et puis qui l'honore dans notre vie. On va avoir de la difficulté à faire ce processus-là parce qu'on n'est pas capable en tant qu'être humain de le faire par nous-mêmes. C'est impossible. On ne peut pas y arriver parce que c'est un travail qui se fait avec l'Esprit, par la puissance de l'Esprit. Donc, on ne peut pas passer à côté. Et dans Romains, il nous dit la première chose qui enlève, c'est quoi? C'est la condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y en a plus de condamnation. Et c'est une chose, dans les 5 prochaines minutes qu'on va voir, le Saint-Esprit, on voit que le Saint-Esprit libère le croyant de la culpabilité et de la condamnation du péché. Il nous rend capable de vivre dans l'obéissance et la justice. Il renouvelle notre manière de penser pour nous concentrer sur ce que Dieu aime. Et il nous donne une vie nouvelle en nous aidant à faire mourir nos désirs pécheurs. Ça, c'est ce que, jusqu'au verset 13, nous dit. C'est ces éléments-là. Et maintenant, si on pense rapidement, Romains 8, 12 à 17, qui dit ceci. « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu, comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba Père », c'est-à-dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, et donc co-héritiers de Christ, puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Donc, beaucoup de choses dans ça. Dans les versets 12 et 13, on voit tout cet élément-là que l'Esprit nous aide à avoir la victoire, tout cet élément-là de transformation. Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est plus celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Nous n'avons plus d'obligation envers notre vieille nature. On n'en a plus d'obligation. C'est fini, ça. Nous sommes complètement une nouvelle personne. Et le croyant a maintenant un choix que les non-croyants n'ont pas, de dire oui ou de dire non au péché, de marcher d'une manière qui va honorer Dieu ou non. On a le choix. Et ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même. Car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Si on continue de rester dans nos anciennes voies, la conséquence de ça va être la mort, parce que c'est la voie de ceux qui ne sont pas en Christ. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. Il met une emphase très importante ici sur tout être humain. Il y a deux choses qui les distinguent. Il y a deux groupes. Il y a ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne sont pas avec Dieu. C'est tout. Il n'y a pas d'entre les deux. Il y a ceux qui marchent par l'Esprit et ceux qui ne marchent pas par l'Esprit. Il y a ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. Vous êtes soit du monde, de la chair ou avec Dieu. Si vous êtes avec Dieu, on va continuer de pécher comme on a dit. Mais vous allez, par l'Esprit, combattre, réagir, lutter, confesser, chercher de l'aide. Bref, vous allez faire quelque chose avec votre péché. Et c'est ça la distinction. Un enfant de Dieu, quand que Dieu lui montre un péché dans sa vie, il fait quelque chose avec. Il agit. L'Esprit nous rend capables de faire quelque chose. Nous ne devons plus rien à la manière de vivre de ce monde. Nous avons un choix face à notre corruption. Nous avons maintenant la possibilité de dire non et de vivre dans la liberté. De tolérer dans notre vie le péché dont nous sommes conscients et qu'on ne fait rien pour le mettre à mort avec l'aide de l'Esprit, c'est très... Si quelqu'un qui se dit croyant agit comme ça, j'aimerais vous inviter fortement à remettre votre salut en question. Parce que ce n'est pas un signe d'un enfant de Dieu. La lutte, la résistance peut faire partie du processus. Mais c'est une partie du processus. Ce n'est pas la fin du processus. Je me souviens d'être dans des situations où est-ce que je réagis fortement. Comme tantôt, Robert, il vient me voir puis il me dit, ça serait tout ça. Non, c'est pas ça. Puis je continue mes choses. Je viens de passer à côté de quelque chose. Ça fait partie du processus. On comprend, on agit. Quelqu'un vient nous dire, un frère vient nous dire quelque chose qu'on a fait, qu'on l'a blessé. Bon, ben non, voyons donc. Puis c'est ton problème, c'est pas le mien. OK. Mais est-ce qu'un enfant de Dieu va laisser ça là? Absolument pas. Quand il va prendre conscience, il va revenir. Et on a tous nos caractères qui rentrent en ligne de compte, on a toute notre histoire, on a toutes nos blessures, on a toutes. Donc, on n'est pas là pour juger ou condamner la réaction des autres. Mais quand Dieu nous montre quelque chose, un enfant de Dieu va répondre, va agir, va se reprendre, va se repentir, va laisser l'Esprit l'instruire. Et ça, c'est un signe distinctif qui est très, très, très important. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ici, ça vient chercher notre identité. Il vient chercher une relation très profonde entre l'Esprit de Dieu et notre identité. L'Esprit de Dieu et notre esprit. Il y a un échange, il y a un témoignage de l'un envers l'autre. Ce n'est pas juste intellectuel, c'est au plus profond de notre âme, c'est au plus profond de notre cœur qu'il y a un échange qui se passe. Il y a une conversation qui agit. Il y a quelque chose de vivant qui va répondre au jour le jour aux situations, qui va répondre au jour le jour à tout ce à quoi on est exposé, à nos pensées, aux événements, peu importe, à nos désirs. Il y a une conversation et ça prend tout ça en compte. Et l'Esprit de Dieu va parler, va rendre témoignage à notre esprit. C'est une relation intime. Être guidé par l'esprit est un signe important qui distingue les enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui sont enfants de Dieu ont la vie éternelle. Donc, lorsque nous sommes guidés par l'esprit, cela produit la vie. Paul continue son explication ici. Il continue, il dit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez un esprit, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions, « Abba », c'est-à-dire « Père ». On n'a pas reçu un esprit qui fait de nous des esclaves et ramène à la crainte. Souvent, dans nos réactions, ce qui nous fait brousser chemin, c'est qu'on a peur de quelque chose. On a peur de perdre la face, on a peur de perdre. Notre frère Jean nous ramenait ça souvent. La peur est causée par, il y a quelque chose là que tu ne veux pas perdre qui est menacé présentement. Et ça t'amène où? Dans la peur. Puis, l'Esprit de Dieu ne nous amène pas dans la peur. Nous ne sommes plus des esclaves. On n'est plus prisonniers. Souvent, ce qui nous empêche, qui nous bloque dans nos processus, c'est la peur. La peur de la prochaine étape. Et on se sent prisonnier. Je ne suis pas capable de faire le prochain pas. Je ne suis pas capable de surmonter ça. Je suis sans force et sans désir. Ça fait trop mal, c'est trop dur, c'est trop humiliant, c'est trop... Mettez ce que vous vivez là, ce que vous avez déjà vécu peut-être, sûrement. Mais l'Esprit de Dieu nous rappelle qu'on n'a plus besoin de demeurer là parce qu'il n'y a plus de condamnation. Tout a déjà payé. Tout ce qui pourrait nous garder dans cette peur-là, là, c'est du mensonge. Parce que Dieu a déjà tout couvert ça. Dieu a déjà tout pourvu pour ça. Il nous assure déjà de son accueil. Il nous assure déjà de son amour. Il nous assure déjà de son pardon. Il nous assure déjà de sa restauration. Sa grâce, c'est recevoir quelque chose que l'on ne mérite pas. Et c'est dans ces moments-là qu'on est le plus conscient qu'on ne le mérite pas. Et c'est là que c'est le plus difficile à accepter. Mais quand on l'accueille, oh que sa grâce est goûteuse. Oh que sa grâce est bonne et précieuse. Voyez, les processus sont précieux. Les processus sont précieux. Les pas de géant que Dieu nous demande de faire sont précieux. Parce qu'elle donne une saveur à sa grâce. Et nos cœurs ont besoin que la grâce soit bonne, qu'elle goûte quelque chose. Sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont chercher quelque chose qu'ils pensent qui va être bon ailleurs. Et c'est là que nos cœurs se détournent de Dieu et puis qu'ils s'en vont dans toutes sortes de voies qui ne mènent pas vers la vie, qui ne nous amènent pas à Jésus. Parce que dans nos vies, pour notre cœur, peut-être pas pour notre tête, on comprend probablement très bien toutes les doctrines pour la majorité. Ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question d'attachement de cœur. C'est plus difficile à corriger ça. Parce que pour que nos cœurs changent de direction, c'est qu'ils doivent être convaincus que ce vers quoi qu'ils se dirigent est bon et goûteux. Et quand la grâce est goûteuse, je vous dis, nos cœurs se garochent à Jésus, à ses pieds, et ne veulent pas se détourner de là. On a été adoptés. L'Esprit Saint lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là qu'on voit cet échange. J'étais devancé tantôt, mais ce n'est pas grave. Et l'Esprit de Dieu amène nos cœurs à crier « Papa ». C'est précieux. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Il vient chercher notre identité ici. Il vient chercher notre identité. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et donc co-héritiers de Christ. Ici, le Seigneur est en train de prendre nos cœurs, nos yeux, qui sont ici dans ce monde, où est-ce qu'il y a des épreuves, où est-ce qu'il y a encore des processus. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il dit, il prend ta tête puis il détourne tes yeux pour les emmener où? Vers le ciel. L'espérance. C'est pas pour rien qu'on a appelé cette église ici, que Dieu nous a demandé d'appeler l'église ici, l'église de l'espérance. Parce qu'elle est précieuse, cette espérance-là. Elle fait toute la différence dans la façon dont vous allez, dont on vit nos épreuves. Et de comprendre cette espérance-là, ça nous permet que peu importe l'épreuve qu'on a devant nous, elle se tourne en quelque chose qui donne la vie, au lieu de se tourner en quelque chose qui détruit la vie, qui nous amène encore plus loin de Dieu. C'est cette espérance-là qui va faire la différence. Je ne vis pas ce que je vis là en vain. Dieu ne m'a pas abandonné. Ça fait partie de ce que Dieu a prévu pour moi. Il est avec moi. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Je ne suis plus esclave. Je suis son enfant. Il y a quelque chose qui m'attend de l'autre côté et ce n'est pas rien. Je suis héritier, co-héritier de Jésus-Christ. Dans 1 Pierre, il nous le dit, ces épreuves-là que vous vivez, vous ne les vivez pas pour rien. Ils sont utiles pour votre foi. Et puis Dieu, il n'oublie rien, aucune larme qu'on verse, que Dieu va oublier. Il va tout recueillir. Puis il va agir en conséquence de l'autre côté. Ce n'est pas en vain. Et puis, on ne l'aime pas la partie de la fin du verset, hein? Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. Mais vous savez, Jésus-Christ, il n'y avait pas de moyen d'éviter la souffrance. C'était le seul chemin pour aller à la croix. Il n'en avait pas. Mais c'est la même chose pour nous dans nos vies. Pour marcher avec Christ, pour marcher comme on vient de le voir là, pour vivre vraiment ça, là, bien, il n'y a pas d'autre façon que de traverser des souffrances. Il n'y en a pas d'autre façon parce qu'on vit dans un monde déchu. Et c'est à travers ces souffrances-là que Dieu restaure, que Dieu accomplit son œuvre et que les gens autour de nous disent, « Je ne sais pas comment tu as fait pour te relever de ça. Moi, j'aurais sombré puis ça aurait été fini. » Mais laisse-moi te dire, c'est qu'est-ce qui m'a donné cette espérance-là de pouvoir passer par-dessus. C'est Jésus-Christ. Et tous ces processus-là témoignent, comme l'œuvre de Jésus-Christ à la croix témoigne. Non seulement ça l'a témoigné pour le monde entier, mais aussi dans le monde spirituel, ça l'a témoigné quelque chose de puissant. L'ennemi a été vaincu. Nos vies, nos souffrances que l'on vit dans la soumission à Jésus-Christ servent à quelque chose. À témoigner aux gens autour de qui est Jésus, mais aussi dans le monde spirituel, de témoigner de la puissance et de la gloire de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas en vain, mes frères et mes sœurs. Accueillez vos processus. J'essaye d'accueillir les miens. Mais on marche ensemble là-dedans. Vous avez une assemblée merveilleuse de frères, de sœurs qui s'aiment, qui sont unis. Confiez-vous les uns les autres, marchez ensemble, supportez-vous, aimez-vous, rapprochez-vous de Dieu ensemble. Vous êtes bénis. Je m'ennuie de cette communion-là que j'avais avec vous. Surtout dans ces moments difficiles-là qu'on a traversés dans les dernières années. Vous êtes bénis, ne vous coupez pas du corps de Christ que Dieu vous a donné. Il va vous aider, il va vous supporter, il va vous faire grandir. Et c'est dans ces moments d'épreuve-là qu'on crée des liens. On a besoin de ces liens-là pour que tout ce qu'on voit là présentement, bien, qu'on les traverse. Puis qu'on se rende de l'autre côté, que le Seigneur nous accueille et qu'on dépose tout à ses pieds. Qu'on dise, notre course est achevée. Prions. Seigneur Jésus, quel privilège, Seigneur, de t'avoir dans nos vies. Quel privilège, Seigneur Jésus, on a de te connaître. Seigneur, viens mettre ta lumière dans nos vies, Seigneur. Tu connais chacun des processus que nous sommes en train de traverser présentement. Chacune des épreuves, Père éternel, qui sont dans nos vies, qui sont devant nous, Seigneur Jésus. Et on veut te demander, Seigneur Jésus, de nous donner le courage, de nous donner, Seigneur, de regarder à toi, de nous donner, Seigneur Jésus, de se laisser diriger par toi, de ne pas tomber dans la crainte, Seigneur, de ne pas tomber, Seigneur, comme si on était encore sous le joug de l'esclavage, paralysé, soumis à ces circonstances, Père éternel, à ces épreuves. Père éternel, viens nous donner la force, la foi, le courage de regarder à toi, de prendre ta main, Seigneur Jésus, et de faire le prochain pas, Père éternel. Viens faire cette œuvre dans chacune de nos vies, ô éternel. On a besoin de toi. Merci pour les frères, les sœurs que tu nous donnes, Seigneur. Donne-nous le courage d'aller vers eux, de partager nos souffrances, de partager nos luttes, de partager ces moments, Seigneur, difficiles, ces épreuves, ces processus qu'on a dans nos vies, Seigneur Jésus, qui sont lourds. Donne-nous le courage, Seigneur Jésus, de se les partager et la compassion, l'amour de se supporter les uns les autres, Père éternel. Viens faire cette œuvre, Père, pour ta gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs.